Bah, moi, Eric, je fais partie du bureau de l'association, hein, et je m'occupe particulièrement du site internet, hein, qui nous permet de pas mal communiquer sur ce qu'on fait. Hein.
Oui, moi, Luis Lopez, moi, je suis le président de l'association depuis 3 ans, mais, et je n'y serai que 3 ans, puisque nous avons décidé dans nos statuts de ne pas aller au-delà. Il n'y a pas de président à vie, voilà. Donc, je laisserai ma place dans quelques jours. L'association Retirada 37 a été créée pour faire vivre les mémoires et les valeurs des républicains espagnols exilés. Ces 500 000 Espagnols qui ont traversé la frontière en février 39, sous la neige, mais ils n'avaient pas de snook, hein, ceux-là. Hein. Donc ils étaient plutôt pieds nus, ils étaient ma mère avec un enfant de 11 mois dans les bras et beaucoup de gens qui ont vécu des horreurs et qui sont retrouvés dans les camps de concentration après d'Argelès, de Gurs, du Vernet, d'autres camps qui ont été créés pour accueillir, entre guillemets, toutes ces familles qui fuyaient le fascisme. Voilà.
Oui, voilà. Alors, faut replacer évidemment les choses dans leur contexte historique, puisque les brigades internationales, elles ont été créées à l'occasion de la guerre civile espagnole qui a commencé en 1936, c'est ça ? Oui. Pour finir 38, vous me dites si je me trompe à chaque fois, en 1938
en 39,
la guerre a 39. Fini en 39 et les brigades sont parties en 38,
voilà, mais voilà. C'est vrai qu'en tout cas c'est peut-être aussi une version de l'histoire qui a été un peu occultée par les événements de la Seconde Guerre mondiale, notamment en France. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut peut-être définir aussi ce que sont et ce qu'étaient les brigades internationales, puisque finalement ce mot, on l'a tous finalement entendu un jour, mais on ne sait pas bien le décrire et le définir.
Alors il y a des brigades internationales, je dirais officielles, qui ont été créées, mais il n'y avait pas que des brigades internationales, il y a également des volontaires anarchistes et révolutionnaires qui se sont joints donc, aux combattants républicains et antifascistes de l'époque. Les brigades internationales ont été créées par le Comintern, hein, les soviétiques, en France et le Parti communiste français qui s'occupait donc d'accueillir donc les candidats donc à l'Espagne pour aller combattre avec les républicains. C'était donc des, généralement c'était Jean Ortiz qui nous en a parlé, Édouard Cil qui nous en a parlé récemment dans nos conférences, nous ont précisé que c'était souvent des étrangers, des gens des Moy, des réfugiés polonais, des réfugiés y compris espagnols qui étaient déjà là avant, qui ont rejoint. Il y avait des Français également aussi qui ont rejoint donc les combattants républicains espagnols. Donc c'était pour, puisque la France avait décidé avec M. Blum, le président socialiste de l'époque, de ne pas intervenir donc avec les Anglais alors que les nazis et les mussoliniens étaient présents sur le territoire espagnol et bombardaient assidûment donc, les villes et donc participaient avec les phalangistes Franco, donc, qui était le général coup d'État, parce qu'il y a un coup d'État militaire le 18 juillet 1936, et donc ce coup d'État aidé de militaires franquistes, aidé donc par les nazis et par les mussoliniens. Donc les brigades, c'est une réponse en quelque part à la non-intervention. C'est les gens d'eux-mêmes, puisque le gouvernement de l'époque avait décidé de ne pas intervenir, donc il y a des volontaires qui se sont proposés donc d'aller aider les républicains espagnols et bien situer le contexte, vous avez raison, c'était pour défendre les libertés, pour défendre la démocratie. C'était pas des mercenaires, hein, attention, hein, c'était des ouvriers, des gens du peuple qui allaient défendre la démocratie, les libertés, donc Espagne qui est assiégée.
Sur contexte quand même, c'est on parle de la guerre d'Espagne, c'est un libel qui prête à discussion quand même, parce que ça a été une entreprise d'extermination, entreprise qui a été véhiculée par les franquistes, par les fascistes italiens et par les nazis allemands, hein, et par l'Église catholique, hein, puisque on redécouvre actuellement.
Qui était complice, hein, en fait.
Tout à fait. Et puis au jour d'aujourd'hui, il y a des milliers de fosses communes qui sont découvertes dans toutes les villes ou les villages d'Espagne. Hein. C'est quand même quelque chose c'était l'extermination systématique des populations dites républicaines, ouvrières ou autres. Et ce qui se passe en Espagne dans les premiers mois en tous les cas, c'est même pas à s'agir de défendre une république, c'est une révolution sociale qui se passe en Espagne, notamment en Catalogne et en Aragon, où là on assiste à une révolution dans les campagnes et dans la ville de Barcelone qu'il y ait une révolution libertaire avec l'autogestion généralisée, etc., etc. Donc il y a des gens qui passent la frontière parce que c'est pas aussi un idéal révolutionnaire, quoi. Et ce qui explique aussi l'attitude de l'Angleterre et de la France dans la non-intervention, parce que en fait c'est un peu dramatique, mais ils préfèrent finalement que ces révolutionnaires soient balayés par les troupes fascistes plutôt que y ait une Espagne révolutionnaire dans le sud de l'Europe, quoi.
Alors pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous avez parlé de l'URSS parce que finalement, effectivement, les Brigades internationales, c'est un mouvement en grande partie initié par l'URSS. Hein, c'est, on parlait pas encore de guerre froide à l'époque, mais bon, on en était déjà pas loin. Ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, ils ont agi aussi sur les brigades internationales. Ils ont eu une énorme influence et pas forcément démocratique. Ils ont parfois vissé et dirigé d'une main de fer ces soldats-là, ou en tout cas ces volontaires-là, contre Franco.
Les brigades internationales créées donc à l'initiative du Parti communiste français essentiellement, mais il y avait des gens de toute l'Europe qui venaient, si vous parlez seulement de des brigades internationales proprement dites, étaient dirigées par les communistes, c'est certain, et Albacete, c'était André Marty qui était donc le responsable de ces brigades internationales. Main de fer, je ne sais pas, discipline vraisemblablement nécessaire pour organiser, c'est le point de vue des brigades internationales. Les volontaires anarchistes avaient une autre vision, donc, puisqu'il y avait l'opposition entre ceux qui étaient pour une militarisation, et c'est ce qui s'est fait par la suite, puisque, y compris dans les brigades internationales, et on l'a appris l'autre jour, Eric comme moi, 30% d'anarchistes faisaient partie de ces brigades internationales. Donc il est vrai qu'il y a eu, en Espagne, il y a eu toujours ce conflit, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin avant l'émission, entre anarchistes et communistes, les anarchistes qui étaient pour susciter une révolution sociale, et en particulier à Barcelone, c'est là que ça a eu lieu, et donc les communistes qui pensaient dans l'esprit, parce qu'il faut resituer le contexte de l'époque, en 35, l'internationale communiste, le cinquième congrès de l'internationale, je crois, communiste, décide non pas de changer d'orientation, de stratégie, qui était la stratégie avant 31, c'était classe contre classe, à partir de 35, c'est la stratégie du front populaire, la stratégie de front. Donc à partir de là, c'était de rassembler donc les forces, je dirais, démocratiques, c'était ça le souci, y compris de Staline, le souci de front populaire, c'est ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Espagne, de rassembler les communistes, socialistes et démocrates, ou les républicains, contre le fascisme. Donc c'était ça l'idée également des brigades internationales. Si les brigades internationales ont pu se créer, c'est parce que il y avait une stratégie effectivement qui avait décidée par l'organisation internationale de l'époque, donc communiste, de s'orienter vers une stratégie de rassemblement contre les fascismes qui se développaient. On parle souvent de la guerre 39-45. Beaucoup d'historiens disent aujourd'hui que la guerre, c'est 36-45.
Et oui,
sur
voilà.
36-39, c'est le début de la guerre mondiale, parce que les nazis, Hitler était présent, Mussolini était présent, et Blum et Churchill, à l'époque, ont dit « nous, on n'y va pas », parce que... Et donc, il y a eu un espèce d'accord et une trahison énorme, enfin, vers les républicains, les démocrates espagnols, qui ont vu donc ce coup d'État. C'est un coup d'État militaire. Hein. Il y a beaucoup de militaires qui étaient avec Franco, effectivement, c'est clair, mais le peuple s'est soulevé, d'abord avec des milices ouvrières qui ont pris les armes anarchistes et communistes, le Quinto Regimiento de las Milicias Populares, c'était à l'initiative des communistes, par exemple, il y avait des milices anarchistes qui ont pris les armes pour combattre le fascisme. Parce que Eric a raison, il y a une volonté de créer une révolution sociale en Barcelone, en particulier en Aragon, mais il y avait également les troupes, y compris avec de Ruti, qui ont combattu donc, sur les fronts. Et ça, c'est important.
Sachant que la particularité de l'Espagne, parce que c'est ça qui est méconnu finalement du grand public, c'est qu'en Espagne, tout du moins en 1936, l'organisation de masse ouvrière, c'est une organisation anarchiste. Là, on parle d'anarchie. On peut se dire, en France, c'est extrêmement minoritaire, c'est de l'extrême gauche. Ce n'est pas du tout le cas en Espagne. En Espagne, c'est un phénomène de masse. Il y a 1 500 000 adhérents à la CNT, de leur organisation.
Ah oui, oui.
Donc c'est vraiment quelque chose de prodigieux. C'est les anarchistes qui organisent le prolétariat espagnol. Le Parti communiste, au début du conflit, il a 20 000 membres. Hein. C'est un petit groupe par rapport au poids des anarchistes. Il va se renforcer au fil du conflit avec l'aide de Moscou et tout ça. Mais en fait, l'anarchisme espagnol, c'est un phénomène qui a marqué et qui continue à marquer d'ailleurs l'histoire ouvrière du pays. Hein. En sachant, toujours préciser sur les forces en présence, effectivement, il y a 80 000 Italiens. C'est pas rien. Hein. Il y a des dizaines de milliers de morts qui sont amenés par Franco, par l'aviation franquiste. Et il y a 10 000 techniciens allemands. Et c'est grâce à. Ils vont s'entraîner à bombarder les villes. Ils vont faire après en Pologne et tout ça. Il y a 10 000 techniciens allemands et parmi eux, il y a pas mal d'aviateurs et la fameuse Légion Condor. Finalement, ils vont affûter leur technique de guerre en Espagne.
Oui, ça va être une sorte de répétition générale. D'ailleurs, c'est vrai, vous l'avez mentionné justement, on pourrait presque faire démarrer la Seconde Guerre mondiale ou en tout cas sur le front,
beaucoup d'historiens le
front occidental avec la guerre d'Espagne.
L'expérience de bombardement de populations civiles, c'est Guernica en Espagne. C'est Guernica, donc c'est la Légion Condor, comme le disait Eric, qui a bombardé Guernica. Hein, donc c'est les premiers essais des nazis pour conquérir l'Europe, oui, bien sûr.
Alors justement, vous faites bien de mentionner Guernica parce que j'allais vous en parler. Donc c'est pour resituer évidemment l'événement, c'est une attaque en grande partie par cette Légion Condor de l'Allemagne nazie, donc le 26 avril 1937, 44 avions qui bombardent cette ville et qui la rasent, hein, on peut le dire. En quoi ce massacre a été déterminant dans l'engagement aussi des brigades internationales? Est-ce qu'il y a eu un afflux après ce bombardement de volontaires en Espagne?
Je sais pas, j'ai pas de réponse.
Le pic d'entrée de volontaires, à la fois les premiers volontaires, de toute façon, ils sont pas aux brigades. Hein. Les premiers mois, ce sont des gens qui eux-mêmes passent la frontière. Le film de Ken Loach, London Freedom, il en parle par exemple. C'est des gens qui vont rejoindre en majorité les milices anarchistes ou du POUM. Et en fait, c'est ça les premiers volontaires. Il y a environ 5000 volontaires qui passent avec des gens connus comme George Orwell ou Simone Veil, la philosophe par exemple. Et après viennent les brigades internationales. Et après, dans les brigades, la plupart d'ailleurs, la majorité de ces volontaires qui soient dans les brigades ou qui soient pas dans les brigades, il y a quand même beaucoup de Français en fait qui passent la frontière, qui vont se battre en Espagne. Et après, il va y avoir des vagues, mais Guernica, c'est pas un phénomène, un marqueur de l'affaire. C'est les choses au niveau des brigades nationales vont être organisées par le Comintern, donc l'international communiste. Il y aura des camps de recrutement en France et puis partout où le Parti communiste est présent, et ils passeront par ces filtres-là, seront centralisés en France et pendant tout le conflit, ils vont pénétrer dans le territoire par ce biais-là. Mais voilà.
Alors la guerre, elle termine en 1939, en tout cas officiellement. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un peu l'échec des brigades internationales, puisque leur but, c'était évidemment d'aider les républicains à combattre Franco. Est-ce que c'est pas un échec où ça va au-delà? Les brigades internationales, c'est une dimension un peu...
L'échec de la guerre, c'est flagrant, hein. C'est l'échec de la République, l'échec de la démocratie, l'échec du peuple, qui est complètement
une
dictature,
pays, hein,
40 ans de dictature après, les militants, les syndicalistes, les militants politiques en prison, qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient communistes, hein, ils sont dans la même galère.
Mais c'est le drame de l'époque, parce qu'effectivement, l'Europe, elle est prise en otage par le fascisme, hein. Je veux dire, il est partout,
hein.
Et puis de l'autre côté du RSS, c'est Staline, hein, qui est aussi, alors ce que s'appelait Daniel Garin, parlait du fascisme rouge. Finalement, c'est une dictature sanglante, le stalinisme. On est à l'époque, en 1936, à des purges gigantesques aussi au sein de l'appareil communiste en URSS. Donc cette république et cette révolution sociale, parce que Staline ne veut pas une révolution qui ne soit pas communiste de toute façon. Donc cette révolution ou cette république, elle est prise en étau de toute façon. Elle est complètement prise en étau par la période, quoi.
les premières victimes de Staline, c'est les communistes. Hein. Il faut le préciser. Arthur London, qui a été brigadiste également, ouais. a subi ensuite la répression staliniste. Ouais. Mais je crois que ce qui est important de situer dans cette Espagne de l'époque... Aujourd'hui, parce que nous, l'association qu'on a créée, c'est pas une association mémorielle seulement. Mm-hmm. On veut rappeler la mémoire des brigades, la mémoire de la retirada, des gens qui sont partis. Moi, ça me touche encore plus en tant que fils de réfugié politique. Mais c'est surtout que nous rappeler que ce qui s'est passé à cette époque-là peut se reproduire aujourd'hui. 92 députés néo-nazis au Bundestag aujourd'hui, est-ce que ça ne doit pas nous inquiéter ? La Hongrie avec un dirigeant d'extrême droite, est-ce que ça ne nous inquiète pas ? Ce qui se passe en Pologne aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc nous, notre association, il y a eu des débats chez nous, je ne vous le cache pas, des débats qui ont été sérieux, qui ont conduit certains à démissionner, que grand bien leur fasse. Mais ce refus de faire le lien, nous, l'histoire est utile que pour le présent et pour que les citoyens d'aujourd'hui comprennent. Je crois que c'est tout l'intérêt, Eric autant que moi, ouais. puisque nous avons créé l'association un peu ensemble. Moi, quand on a pris l'initiative de créer l'association, moi j'ai rencontré Eric. Moi, je suis communiste, je ne le cache pas. Eric est anarchiste. J'ai rencontré Eric, je lui ai dit, Eric, il faut qu'on crée quelque chose. Mmh. Il ne faut pas qu'on reproduise ce qui s'est passé à cette époque entre anarchistes et communistes. Des guerres fratricides, c'était terrible. Mmh. Moi, j'habitais, l'autre jour, Jean Ortiz disait quelque chose dans son quartier, il y avait des anarchistes qui habitaient et il n'avait pas le droit de leur parler. Mais nous, moi, j'habitais dans une rue où il y avait des anarchistes qui habitaient dans la même rue, des jeunes de mon âge, et on n'avait pas le droit de leur parler. Et c'était pareil de leur côté, c'était terrible.
Mais c'était des guerres fratricides, en tout cas.
C'était des guerres fratricides à l'intérieur du camp de l'antifascisme. Mmh. Et je crois que on n'a pas intérêt, Gérard, à reproduire. Qu'on dise les choses. On avait un excellent historien vendredi dernier, Édouard Sill, qui nous a parlé du mouvement anarchiste et révolutionnaire. Mais qu'on laisse les jeunes historiens, surtout les jeunes historiens, nous dire exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis pas responsable et coupable de l'assassinat de Nin par le NKVD, les staliniens de l'époque. Moi, j'ai rien à voir avec ça, moi. Et essayons de bien comprendre les choses. Pourquoi les comprendre ? Pas les comprendre seulement pour l'histoire avec un grand H et de cette histoire de... non, c'est pour comprendre aujourd'hui ce que l'on vit et pour que les jeunes générations ne revivent pas ce qui s'est produit à cette époque. C'est ça tout l'intérêt. Sinon, très sincèrement, on n'aurait jamais créé une association. Ni Eric ni moi, nous aurions créé cette association Retirada 37 pour faire vivre les mémoires et les valeurs. Et quand on dit les mémoires, c'est toutes les mémoires. C'est pas une mémoire monolithique, c'est pas les cocos. Il y a des associations qui sont créées, des cocos, d'autres seulement les anards, d'autres c'est seulement le poum. Moi, ni Eric ni moi avions envie de ça. On avait envie
dans le même sac, quoi.
Tout dans le même sac, mais de façon, en débattant, on n'est pas toujours d'accord, c'est bien, et c'est tant mieux. Mais qu'on débatte très tranquillement, et que les historiens nous donnent les éclairages nécessaires à tout ça.
En tout cas, on va...
C'est Serge, demain, il faut penser, on y est venu pour parler de Serge Girolio, quand même.
Exactement, non mais c'est très intéressant de vous écouter parler sur les brigades internationales, et je vais faire le lien avec justement le concert de Serge. Alors, j'ai peur de dire une bêtise sur son nom, est-ce que vous pouvez l'épeler? En tout cas, le nom, est-ce que vous pouvez...
Serge, Udge, U-T-G-E,
Udge, voilà,
Udge Royo, R-O-Y-O. Voilà.
Parce que c'est vrai, je ne suis pas hispanophone.
Serge,
donc,
Udge Royo. Je crois qu'il est castillan, catalan.
Il
est catalan. Mm.
Et alors, du coup, le nom de son concert, c'est No Pasaran. Voilà, alors ça, c'est vraiment le symbole des brigades internationales. C'est vous ne passerez
c'est
pas...
C'est la défense de Madrid.
Voilà.
Parce que Madrid aurait dû tomber rapidement.
En parlant des fascistes, vous ne passerez pas...
C'était la passionaria. Ouais. Dolores Ibárruri, qui était responsable du Parti communiste espagnol, qui a lancé ce No Pasaran, qui a été repris ensuite dans l'histoire par plusieurs.
Bon, en tout cas, on va parler de ce concert tout de suite après une première pause musicale. C'est des musiques d'ailleurs que vous m'avez ramenées. On va écouter du coup, que je ne me trompe pas, A las Barricadas.
Qui est un chant anarchiste.
Au barricade. Tout simplement.
Elle mérite d'être claire.
Absolument.
Alors, j'essaie de caler le son parce qu'on a quelques petits problèmes de son. Ça devrait être bon. Je lance ça et on revient évidemment tout de suite après. C'est parti.
Thank you. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrumbar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la.
Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM et une émission sortée aujourd'hui consacrée à l'Espagne et aux brigades internationales. Et nous avons la chance d'avoir dans les studios Eric et Luis qui représentent l'association Retirada 37, hein, c'est ça ?
Retirada 37.
Retirada, tout simplement.
Parlons-toi, Anjo.
Retirada 37. Non, mais du coup, j'essaye de m'imprégner de la culture espagnole et de la langue, évidemment. Je vous avais proposé un petit quiz, on va le faire rapidement, et on va revenir évidemment sur le concert de Serge Huguet-Royo qui sera le vendredi 23 février, donc en fait demain soir, au centre communal de Saint-Pierre-des-Corps. Centre
culturel communal.
Culturel communal, voilà. Merci pour la précision. Je mets le petit jingle pour le quiz et je vous pose quelques petites questions. Alors, sans surprise, des questions sur les brigades internationales. Voilà, alors première question, on a parlé du terme tout à l'heure, No Pasaran, qui est d'ailleurs le nom donné au concert demain. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient initialement cette phrase ?
On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'on a répondu, Eric a répondu, c'était la défense de Madrid, puisque Madrid était la première ville attaquée par les franquistes, et les brigades internationales ont appuyé les forces républicaines, les forces démocratiques, les forces progressistes qui étaient présentes, et donc la Passionaria, il y avait des grands panneaux, des grandes banderoles, No Pasaran, et la Passionaria, Dolores Ibarri, a donc prononcé dans un discours cette phrase « No pasaran, ils ne passeront pas ».
Et alors, pour être tout à fait précis, la phrase viendrait d'un général français, Robert Nivelle, pendant l'offensive de Verdun, qui aurait prononcé en fait la même phrase « Ils ne passeront pas ». Bon, cette fois-ci, en français,
toutes ces phrases-là, vaut mieux vivre debout
oui,
que...
Oui, voilà.
Voilà,
c'est des phrases, on ne peut pas vraiment fixer l'origine de ces termes-là.
Difficile.
Deuxième question. Un certain André Malraux aurait servi dans les brigades internationales. Est-ce vrai ou faux ?
Bien sûr que c'est vrai. Il était aviateur, mais bon...
Effectivement,
ouais.
C'est vrai.
Bon, il n'a pas été très longtemps. Il n'a pas fait de grands exploits. Mais il était présent, ce qui était tout à son honneur d'être présent.
Et il a constitué une escadrille aérienne qui s'appelait Espagna.
Absolument.
Voilà,
Qui était installée à Albacete. Ouais.
Et avec le soutien, il faut le dire aussi, implicite de Pierre Cotte, qui était ministre de l'air français à l'époque.
Absolument.
Donc, comme quoi, il y avait aussi des liens avec la politique. Troisième question. En 1937, donc en plein cœur hein, de ce mouvement-là. À combien estime-t-on le nombre de Français qui ont servi à ce moment-là dans les brigades internationales?
Bah, je ne sais pas, il y a 32 à 35 000 combattants dans les brigades internationales, okay. Et je pense que le corps français, c'est pas loin de la moitié, voire un peu plus.
10 000, 10, 12 000, il y en a qui disent, non. Mais c'est difficile.
Ouais, voilà, c'est dur à estimer. Moi, selon mes sources, pardon, on est autour des 20 000. Mmh. Est-ce que c'est des chiffres qui paraissent...
Ça dépend, parce que ça dépend du mois, quoi. Ouais. Ça bouge.
Et ça dépend aussi de ce qu'on considère comme français. Je vous disais tout à l'heure que les Français, il y avait des Français, mais parmi les autres, les Français,
il y avait
beaucoup
d'apatrides.
Beaucoup d'apatrides, ouais, beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens qui étaient issus de Pologne, de beaucoup de pays d'Europe, beaucoup de Juifs, de la Moye, etc. Donc. Mais bon, ils venaient de France, ils passaient par le filtre de la France, et donc, oui, 12 000, 15 000.
En tout cas, c'est un gros contingent dans les brigades internationales.
C'était
les combattants
le plus gros contingent. Il y avait les Anglais, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens,
Il y avait plein de nationalités ici.
Absolument.
Quatrième question. On parlait tout à l'heure de Guernica, et évidemment, ça a été aussi un tableau très célèbre de Picasso qui porte le même nom, Guernica. Est-ce que vous savez quand il a été peint, ce tableau?
Il a été peint pour la foire internationale donc, en 1936. Il était exposé. Et donc,
En face du pavillon allemand.
En face du pavillon allemand. Et Picasso, on lui a posé une question. Il y avait puisque c'est en face du pavillon allemand, il y avait un nazi qui était là. Et il lui a été posé la question à Picasso, mais c'est vous qui avez fait ce tableau? C'est vous qui avez fait ça? Et Picasso a répondu, non, c'est pas moi, c'est vous.
Ah ah. Et oui, très profond. Évidemment, le tableau qui retrace
les horreurs de l'aviation nazie.
Voilà, exactement. Mmh. Et ça a été en fait une commande du gouvernement républicain de l'époque, de Francisco Largo Caballero, voilà, qui a commandé en fait ce tableau à Pablo
Absolument.
Picasso.
Mmh. C'était pour le pavillon espagnol, donc de
l'exposition
internationale universelle de 1936.
Ouais. Dernière question. Ernest Hemingway était journaliste en Espagne à cette époque-là. Il a écrit un livre sur cette époque-là qui est sorti en 1940. Est-ce que vous pouvez me donner le nom
Pour qui sonne le glas?
Effectivement, ouais. Voilà.
Tout le monde a lu Pour qui sonne le glas.
Sauf moi, je vous l'ai tout même. Mais vous savez quoi, ça m'a donné envie de le regarder.
Il y avait des.
Parle de guerriers roses d'ailleurs, de miliciens qui se battent derrière les
voilà,
lignes.
Voilà, en fait, ça raconte la mission d'un jeune professeur américain qui s'appelle Robert Jordan, qui est engagé justement dans les brigades internationales.
Voilà, c'était dans la Sierra de Guadarrama, à côté de Madrid, ça se situe là. Mais il y avait des grands photographes comme Capa, voilà, qui étaient présents également. Sur le conflit.
Ouais. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont passionnés de cette période-là et des brigades internationales, évidemment, ils peuvent lire le livre d'Ernest Hemingway. On va revenir sur l'événement qui se passera demain au Centre culturel communal de Saint-Pierre-des-Corps. C'est un concert nommé plutôt No Pasaran, chanté par Serge Udjé-Royo. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur demain soir? Comment ça va se passer? Quel type de chanson? On va peut-être évoquer ça aussi.
Écoutez, il y a deux parties, je crois. Il y a Véro, je me souviens plus.
Qui va chanter des chants populaires espagnols et argentins.
Oui, il faut l'annoncer, la première partie.
Effectivement, vous avez raison de me reprendre.
Et Serge Udjé-Royo fera la deuxième partie. Moi, je ne connais pas son concert, sincèrement. Je connais ses chansons, bien sûr.
On vient d'en écouter une, d'ailleurs.
Oui, on vient d'en écouter une, qui chantera demain.
Il a fait des chansons. Là, cet album, il date d'il y a une quinzaine d'années, peut-être. Et il a fait des chansons plus récentes, hein, où il continue de parler, d'ailleurs, entre autres, hein, de la Révolution espagnole, parce que Serge, c'est un libertaire, donc il a plus tendance quand même à parler, à chanter des chants de ce point de vue-là, mais pas que. Hein. Et donc, a priori, le récital de demain, il va être centré sur les chants révolutionnaires qui ont pu être chantés en nombre. Hein.
Et des poèmes également.
Il a beaucoup écrit, d'ailleurs. Il a écrit plusieurs recueils de poésie, de romans.
Ça reste en tout cas de la musique très engagée.
Ah oui, tout à fait, c'est un chanteur engagé, c'est clairement engagé.
Il est venu à Saint-Pierre il n'y a pas très longtemps, chanter Léo Ferré quand même, et c'était extraordinaire, c'était magnifique. Moi je l'ai vu, donc c'était magnifique. Donc demain c'est des chants révolutionnaires, mais des chants engagés, mais également beaucoup de chants. Il va chanter des chansons avec des chants de poètes comme Miguel Hernández, c'est engagé, mais c'est très beau. Enfin, c'est de la bonne poésie, des beaux textes et de la bonne chanson. Franchement, moi, ceux qui n'ont pas vu Serge, je leur recommande vivement, s'ils n'ont rien à faire demain, de venir voir Serge.
Et ils peuvent aller s'alimenter sur le net, hein, YouTube, tout ça. Il y a des trucs qui tournent, donc il ne faut pas hésiter d'aller faire ce marché.
Alors, dernière petite question. L'heure tourne, c'est déjà... la fin de l'émission bientôt, mais nous avons quand même le temps pour une dernière question. Quels sont vos futurs projets, ou en tout cas pour l'association Retirada 30-tête, est-ce que vous avez déjà des événements de prévus ou des choses de prévues?
On a un événement fort qui est prévu le 11 avril, de nouveau à la bibliothèque de Saint-Pierre-des-Corps, puisque Lydie Salvert, prix Goncourt 2014 avec Pas pleurer, viendra à Saint-Pierre-des-Corps, donc le 11 avril à 18h30. Donc nous rencontrer, parler de Pas pleurer, mais parler également de son dernier livre, Tout homme est une nuit, qui raconte également les idées nauséabondes dans un café des sports d'une petite commune où elle est, où une personne ou quelqu'un est venu s'installer. Donc je pense que le lien entre les deux livres, elle va nous parler du lien entre ces deux livres. Ça, c'est notre prochaine initiative. Mais si vous nous invitez prochainement, on vous fera part de toutes les initiatives qu'on a en cours.
Avec plaisir. On va rappeler aussi votre site internet, si d'aventure les auditeurs voudraient voir toutes ces petites informations avant votre prochaine venue. C'est retirada37.com, tout simplement.
Voilà, c'est tout.
C'est le site internet de votre association. Et on le rappelle une dernière fois, le concert de Serge Ujiroyo, ça sera demain à 20h au Centre culturel communal de Saint-Pierre-des-Corps, un concert intitulé Nos Passarans.
Et puis on a une adresse mail aussi, ça peut servir, on sait jamais.
Allez-y.
retirada37@gmail.com.